cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Pierre, tu nous reviens d'un long séjour en Argentine où tu as pas seulement fait le touriste et visité les endroits intéressants du pays, mais aussi...
J'ai mangé deux vaches aussi, moi tout seul.
Deux vaches. Tu as aussi rencontré un certain nombre de militants, puisque on sait que ces dernières années, ça a été particulièrement relevé. La
situation sociale en Argentine. Oui, j'avais pris mon micro dans ma poche et on a profité de ces quelques vacances pour faire un petit peu de son. On a rencontré Emilio Taddei, ce qu'on vous propose d'écouter tout de suite. Emilio Taddei, il est sociologue au CLACSO. Le CLACSO, c'est un centre de sciences sociales, mais qui a la particularité de travailler à l'échelle latino-américaine, donc qui rassemble des chercheurs en sciences sociales très très, très marqué à gauche, très marqué proche du mouvement altermondialiste, à la fois dedans, dehors. Et il travaille avec donc des Mexicains, des Chiliens, des chercheurs de tous ces pays-là. Alors, dans ce premier entretien avec Emilio Taddei, on s'est un petit peu interrogé sur la situation sociale et politique en Argentine depuis la crise de 2001, puisqu'il faut se rappeler qu'en décembre 2001, il y a eu une dévaluation de la monnaie argentine qui a plongé le pays dans le chaos. Mais de ce chaos est né un certain nombre de mouvements sociaux, de luttes. Alors les piqueteros, évidemment, les classes les plus pauvres du pays qui, comme moyen de lutte, bloquaient les routes et l'approvisionnement à la fois des magasins, mais aussi l'accès aux villes, tout ça. Et puis les caceroles, ce qu'on appelait les caceroles, qui étaient les classes moyennes qui sont parmi ceux qui ont le plus perdu dans cette crise.
Celles qui ont le plus d'argent en banque.
En fait, celles qui avaient un petit peu d'argent en banque et qui n'en avaient pas placé à l'étranger, qui ont perdu le plus, effectivement. Et qui, eux, sont descendus dans la rue avec leur casserole. Donc, le piqueteros et cacerolas, c'est les pauvres et les classes moyennes ensemble dans la lutte. Alors, c'est toutes ces questions-là qu'on avait à poser à Emilio Taddei pour qu'il essaye d'éclairer un petit peu la situation en Argentine.
Vamos, compañeros, hay que poner un poco más de huevo. Los que cayeron son nuestra memoria, desde la resistencia, la victoria, la victoria.
Alors donc on est à Buenos Aires, on est avec Emilio Taddei qui est économiste, qui est membre du Claxo. On reviendra peut-être tout à l'heure sur ce qu'est le Claxo et où en sont les sciences sociales ici en Argentine. Mais peut-être qu'on peut commencer en discutant de la situation politique et économique en Argentine. Il y a eu une crise très très dure avec une dévaluation de près de 80% de la monnaie argentine qui a commencé en décembre 2001. Qu'est-ce qui se passe et dans quelle dynamique économique et politique se trouve votre pays aujourd'hui?
Bon, tout d'abord, une petite correction, je suis sociologue, je suis pas économiste. Donc, par rapport à la question qui a été posée, je dirais que, bon, à ce moment, on est dans une situation très différente à celle de 2001. D'abord, il faut dire que nous rentrons dans une période électorale en Argentine, une période qui va être marquée par les élections présidentielles qui vont se tenir au mois d'octobre de 2007 cette année. Et du point de vue social, je dirais qu'on est dans une période très différente à celle de 2001, en fait, au moment de la crise, puisque la bourgeoisie argentine, les différents secteurs des classes dominantes ont réussi à stabiliser un modèle politique qui était contesté, qui était très contesté en 2001. Bien évidemment, on est dans une conjoncture économique qui favorise un peu une reprise économique, même si cette reprise, bien évidemment, n'a pas servi ou ne favorise pas un changement du modèle de distribution des richesses en Argentine. Donc, même s'il y a un effet, et ça il faut le dire parce que sinon on s'est trompé, un effet collatéral d'une certaine amélioration de la situation. Si on regarde de près les données économiques, on voit que la perte des salaires et la perte du pouvoir d'achat des secteurs populaires, des classes travailleuses en Argentine reste quand même n'a pas réussi à récupérer les niveaux d'avant la crise. Donc, pour revenir sur les problèmes de la crise, essayer de comprendre rapidement ce qui a été cette crise, il faut dire que la sortie de la crise a été un moyen d'approfondir un modèle d'accumulation et un modèle de distribution de la richesse tout à fait inégal. Donc je dirais que du point de vue structurel, on n'est pas sorti du modèle néolibéral. Je dirais le contraire du point de vue de l'insertion de l'économie argentine dans la division internationale du travail. La dévaluation a signifié un processus d'approfondissement du modèle de primarisation de l'économie argentine, c'est-à-dire un modèle qui repose, qui tient son dynamisme justement à une extraction ou à une valorisation des matières premières. Le modèle agro-exportateur occupe une place décisive dans ces nouveaux miracles, entre guillemets, qui traversent l'économie argentine. Donc il y a des secteurs qui sont responsables de cette reprise. Bon, en premier lieu, les exportations agricoles, notamment le soja. Mais bon, sur ces plans-là, il faut signaler que il y a un élargissement vraiment très préoccupant du modèle de l'agrobusiness, des affaires agricoles, basées sur la diffusion du soja transgénique. Moi, je viens de rentrer le week-end, je fais un petit voyage dans la province de Buenos Aires, la région de la Pampa Húmeda. En fait, c'est la région la plus riche du point de vue agricole, et c'est vraiment terrifiant de voir que partout il y a du soja, et c'est du soja transgénique. L'Argentine, c'est le deuxième producteur mondial de soja transgénique. Il y a aussi des secteurs qui étaient, en fait, qui commencent à avoir un dynamisme très important par rapport à ce que c'est là représenté dans des décennies précédentes, c'est les mines. L'Argentine aujourd'hui est le premier pays de l'Amérique latine en fait, récepteur de capitaux d'investissement dans les mines. Et, bon, ça, on n'en parle pas.
Des mines de quoi? Des mines de quel minéraux?
Il y a, en fait, bon, c'est compliqué parce que du point de vue formel, hein, c'est des mines de cuivre, d'or, d'argent. Mais on a su, par exemple, dans une province qui s'appelle Catamarca, qui est une province limitrophe avec le Chili, que les capitaux, c'est essentiellement des capitaux américains et canadiens qui investissent là-bas. Bon, ils déclarent l'extraction de l'or, du cuivre et de l'argent, mais ils préparent en fait des bouts, des minéraux qui sont sortis clandestinement, mais qui ont une valeur très important sur les marchés internationaux. Et donc là-dessus, il n'y a pas de taxation, il n'y a pas de bénéfice pour l'État. Donc, bon, on parlait tout à l'heure, j'ai dit c'est que le tourisme aussi est un secteur qui a un dynamisme très important. Il n'y a pas une politique touristique soutenable en Argentine, donc c'est vraiment du tourisme prédateur. Il y a partout en Argentine, il y a, et surtout dans les régions qui sont développés du point de vue touristique, ils commencent à avoir des problèmes très sérieux qui sont liés à cette dynamique. Donc, la crise qui a été la crise de 2000 ans qui s'est caractérisée en fait par, on pourrait dire qu'il y avait deux composantes de la crise. D'un côté, une dispute très importante au sein des groupes économiques et des classes dominantes, parce qu'il faut se souvenir que jusqu'en 2001, l'Argentine avait mis en place un système monétaire qui était tout à fait fictif, c'était le système de la convertibilité, et donc on avait décrété à travers une loi qu'un peso était équivalent à un dollar. Donc, ce qui était tout à fait fictif, tout le monde le savait, mais dans la mesure où il y avait une rentrée des capitaux qui permettait de soutenir cette parité des monnaies, tout marchait bien, même si, bien évidemment, les conséquences sociales étaient énormes. Il y a eu un processus d'appauvrissement, des concentrations de la richesse, une croissance du taux de chômage qui a atteint presque le 35% en Argentine. Mais cette possibilité ou cette politique des monétaires était possible justement à cause de la privatisation des entreprises publiques. Il faut rappeler que l'Argentine, c'est le pays qui a le plus privatisé. Et donc, à ces moments-là, pendant les années 80 jusqu'aux années 96, ça a permis une rentrée de capitaux énorme, bien évidemment, qui permettait de soutenir cette politique. Mais la contrepartie de ces processus de financiarisation de l'économie, c'était justement une perte de compétitivité des secteurs exportateurs qui devaient payer en fait des coûts en dollars, et donc les taux de en fait les revenus sur les plans internationaux étaient plus faible. Donc, il y a eu cette dispute entre des secteurs économiques. Il y avait, pour le dire vite, le secteur financier qui voulait continuer avec la convertibilité, et puis le secteur exportateur qui poussait vers une dévaluation. Okay? Et puis, il y avait le malaise social qui s'était cumulé. Moi, je dirais que il y a une date qui est symbolique. En Argentine, lorsqu'on analyse le processus de contestation au néolibéralisme, c'est les luttes menées par les chômeurs, les anciens travailleurs de l'entreprise pétrolière publique, qui ont, en 96, ont mené en fait une lutte très importante dans deux localités, en fait deux villages, l'un au nord de l'Argentine qui s'appelle General Morcone et Tartagal dans la province de Salta, et puis une autre dans la province de Neuquén. Toutes les deux provinces étaient des provinces pétrolières, sont des provinces toujours pétrolières, et donc dans ces villages, je dirais que presque le 90% des gens qui vivaient, des familles, dépendaient justement de l'emploi public, de l'emploi liée à l'industrie, à la compagnie de pétrole publique. Et donc, il y a eu deux soulèvements à Tartagal y Salta, au nord, et puis un autre à Cutralco, à Neuquén. Et donc, ces deux émeutes populaires marquent un peu le départ d'un cycle de lutte sociale qui va connaître en fait un point de visibilité très important en décembre 2001, lorsque les secteurs, en fait, les classes moyennes ont été affectées en fait par la politique des gels des dépôts bancaires. Donc ça produit vraiment une explosion populaire très très importante. Mais en général, et ça, quand la crise a été médiatisée à l'étranger, on montrait essentiellement les classes moyennes qui gueulaient un peu dans les portes des banques, etc. Mais il faut savoir que la résistance et les luttes les plus importantes contre les politiques néolibérales ont été menées justement par les secteurs les plus défavorisés dans les années 90. Donc il y a deux composantes de la crise, donc la composante populaire et des classes moyennes, et puis une dispute au sein des classes dominantes. Et même il y a eu une manipulation, parce qu'il y a eu, bon ça c'est prouvé, il y a eu justement des politiciens liés ou qui représentaient les intérêts des secteurs exportateurs qui poussaient vers une dévaluation, qui ont manipulé des organisations populaires et qui ont toléré un peu les saccages des supermarchés, etc., justement pour créer un climat politique. Mais on ne peut pas dire, parce que bon, il y a un débat, il y a des interprétations différentes en Argentine, mais on ne peut pas dire qu'une telle crise a été une manipulation médiatique. Il y a, en fait, c'est comme tout phénomène social d'ampleur, bon, il y a des tensions, il y a une complexité qu'il faut analyser et bien saisir, justement pour comprendre l'actualité. Donc, pour aller un peu plus vite, je dirais qu'entre 2001 et 2003, cette dynamique des contestations a été très importante. Mais bien évidemment, il y a eu une tentative de relégitimer les systèmes politiques et de reprendre en main, de la part du parti péroniste, en fait, les contrôles de la politique sociale. Et donc, je pense que Kirchner, l'actuel président argentin, représente un peu cette tentative de récupération et de relégitimation des institutions politiques républicaines en Argentine, mais tout en gardant l'essentiel du modèle d'accumulation néolibérale. Donc là, on arrive à la question du profil du gouvernement Kirchner. Moi, je dirais que, parce que c'est vraiment complexe, on ne peut pas l'analyser de façon, en fait, comme si on gelait une photo. Il faut dire qu'il y a eu, bien évidemment, au fur et à mesure que le mouvement populaire a perdu sa puissance, il y a eu une évolution du discours et de la politique du gouvernement. Bon, à l'étranger, Kirchner, il est reconnu par son action ou sa politique des droits de l'homme par rapport au passé, qui est tout à fait importante. Mais ça, une fois encore, il faut dire que c'est pas l'œuvre de Kirchner. Bien évidemment, il y a des décisions politiques qui sont très importantes, mais il y a toute la lutte du mouvement des droits de l'homme qui existe en Argentine depuis 1976.
En même temps, c'est pas seulement reconnu à l'étranger, parce que quand la responsable des maires de la place de Mai enlève son voile ou son chapeau, je ne sais pas, devant Kirchner, ça a une valeur symbolique forte. Donc c'est aussi, il y a aussi un symbole interne à la société argentine.
Oui, tout à fait, bien évidemment. Mais là, c'est un bel exemple du rapport complexe qui entretient le gouvernement Kirchner avec les mouvements sociaux et notamment les mouvements des droits de l'homme. Donc il y a une double politique, je dirais, dans cette tentative de relégitimation du modèle de domination et du modèle politique en Argentine. Il y a une politique de cooptation, c'est-à-dire l'incorporation des mouvements sociaux à travers des dirigeants dans l'appareil de l'État en tant que fonctionnaire politique. Ça, on peut le voir, il y a des ministères clés sur ces points de vue. Les ministères de ce qu'on appelle le développement social, donc le ministère de la politique sociale, là, il y a des responsables des mouvements piqueteros, des mouvements de chômeurs, qui sont devenus des fonctionnaires et donc qui adhèrent et qui manifestent l'appui à la politique du gouvernement. Hein. Parfois, c'est un appui critique, donc c'est pas tout à fait consensuel et tranquille. Il y a des tensions, bien évidemment, parce que dans ce gouvernement, il y a des composantes différentes. Hein. Mais en général, je dirais que l'évolution de la politique, l'évolution générale de la politique du gouvernement, c'est justement, et au fur et à mesure que les mouvements populaires s'affaiblissent, c'est justement une politique qui tend à relégitimer les modèles néolibérales. Et les mouvements de droits de l'homme, c'est un cas de figure, c'est en ce qui concerne le problème de la cooptation. On aurait difficilement imaginer Eve de Bonafini, qui est la figure la plus emblématique de maire des Places de Meux il y a 5 ans, dire qu'elle allait soutenir un gouvernement. C'était une opposante à tout gouvernement, quoi qu'il soit la couleur politique du gouvernement argentin. Et donc, voilà, maintenant, c'est vraiment une des personnes qui travaille au soutien de la politique des droits de l'homme. Et ça, c'est aussi intéressant. Il faut dire que c'est la politique des droits de l'homme par rapport au passé, à la dictature. Mais si on voit ce qui se passe, et ça, c'est la deuxième composante hein, du rapport complexe qui entretient Kirchner avec les mouvements. Je disais, il y a une première composante, c'est la cooptation, mais il y a une deuxième composante qui est la répression. C'est-à-dire que tous les mouvements qui contestent la politique actuelle, la continuité des conséquences de la politique néolibérale, parfois sont réprimées. Pour donner un exemple très, très important, l'année dernière, dans la Provence, dans l'État qui était gouverné par Kirchner avant qu'il soit président, c'est l'État de Santa Cruz, qui est un État pétrolier, et dont, ça c'est intéressant, je fais une parenthèse, dont les budgets provinciaux est voté par le Parlement local, par le Parlement de la Provence, après que l'entreprise Repsol fasse son bilan annuel pour voir un peu quelle est la dépendance du budget public par rapport aux entreprises transnationales. Donc, dans ces provinces-là, il y a eu un mouvement, une grève antibureaucratique très importante parce que bon, les syndicats est contrôlés par des bureaucrates qui sont très proches de la politique de Kirchner, mais il y a eu quand même une rébellion des basses, des travailleurs, et au moment de cette grève, il y a eu une répression qui a été un peu diffusée, parce que c'était tellement évident, on ne pouvait pas le cacher, et ça faisait penser aux images de la répression dans la dictature. Et même Eve de Bonafini, donc quelqu'un qui soutient le gouvernement, il a dû reconnaître qu'il y avait eu des tortures commises contre les leaders syndicaux de gauche. Donc, il y a ces deux composants de la cooptation et de la répression, et ça fait partie un peu de ces processus de relégitimation de l'appareil de l'État et d'une politique néolibérale, même si, et ça il faut le reconnaître, il y a parfois, lorsqu'il y a un mouvement qui fait pression, il y a quand même des possibilités. Ça, c'est une des traces différentes des années 90. Il y a quand même une possibilité d'arracher des victoires ou des négociations avec le gouvernement. Mais je pense que ce gouvernement est loin de l'image, surtout internationale, qu'on a parfois à l'étranger, de penser que c'est un gouvernement de gauche.
Vamos, compañeros, hay que poner un poco más de huevo. Los que cayeron son nuestra memoria, desde la resistencia a la victoria. Vamos, compañeros. Vamos, compañeros, hay que poner un poco más de huevo. Los que cayeron son nuestra memoria, desde la resistencia a la victoria. Vamos, compañeros, hay que poner un poco más de huevo.
Voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel avec l'émission Les Oreilles Loin du Front, cette semaine dans sa version grand reportage. Alors on est toujours en Amérique latine et plus précisément en Argentine. On discute avec Emilio Taddei des mouvements sociaux en Argentine. Et une des composantes de ces mouvements sociaux, celui qui nous a le plus intéressé, c'est les entreprises récupérées. Alors les entreprises récupérées, c'est des entreprises qui ont été soit confisquées au patron, mais plus souvent... C'est des entreprises qui ont été abandonnées par les patrons à l'occasion de la crise de 2001-2002. Alors on essaye de revenir avec Emilio Taddei sur ce que c'est ces mouvements, sur ce que sont ces entreprises récupérées et évidemment comment ça se configure. Il n'y en a pas qu'une seule. Sur les mouvements sociaux, on a entendu parler des piqueteros, mais aussi des entreprises récupérées. Est-ce que c'est un phénomène nouveau? Comment la classe politique à gauche entre en dialogue avec ces formes d'action?
Bon, je pense que justement les mouvements des entreprises récupérées autogéré a été une des composantes les plus intéressantes des manifestations les plus intéressantes de la crise de 2001. Il faut expliquer un peu quelle était la situation et la dynamique qui a déclenché ces mouvements qui a en fait une dimension nationale. C'est justement à cause du processus de financiarisation et la faillite des entreprises à capitaux nationaux dans les années 90 qui avaient complètement perdu la capacité de compétitivité sur les marchés internes, sur le plan international. Et donc il y a eu pas mal d'entreprises qui ont déposé le bilan, qui ont commencé à déposer le bilan, et ça c'est un phénomène qui s'est accru à partir de 2000 et 2001. Et il y avait aussi un phénomène de spéculation, parce que même si c'était des industries qui n'étaient pas rentables, les patrons, ils avaient la possibilité de demander des crédits à l'État ou au niveau international, mais c'était justement pour faire de la spéculation financière qui était plus rentable que la production industrielle. Donc, il y a eu des licenciements et il y a eu des travailleurs et des travailleuses qui ont commencé justement, qui ont vu que la seule possibilité d'échapper à un plan social était justement de reprendre en main la production et la propriété des entreprises. Et donc, à partir de 2000, ces mouvements commencent à s'élargir et à répandre un peu partout. Bien évidemment, il y a des provinces où c'est plus important, justement parce que c'était des provinces à forte composante industrielle. Mais, et donc la crise de 2001, c'est un déclic du processus. Donc ici, par exemple, dans la ville de Buenos Aires, il y a à peu près une trentaine d'entreprises qui ont été récupérées par les travailleurs et les travailleuses. Et la gauche... a été présente dans ces luttes. Parfois, c'était difficile à bien comprendre ce qui était l'ampleur du mouvement. Parce qu'en général, la gauche politique traditionnelle en Argentine, lorsqu'il y a ce type de conflit, a une stratégie qui je trouve un peu courte du point de vue de longue durée, parce qu'il voit là une espèce une possibilité de cumuler des cannes pour le parti. Bien évidemment, on doit reconnaître ces droits, mais c'est des processus beaucoup plus complexes. Je dirais que c'est des processus aussi bien dans les entreprises récupérées que dans les cas de piqueteros, des construction d'une nouvelle territorialité de la part des travailleurs. C'est-à-dire une tentative de reprendre en main la construction d'un espace, et je ne parle pas seulement d'un espace du point de vue physique ou géographique, mais d'un espace social où il y a des liens sociaux qui se transforment et qui se recréent. Donc, et ça, dans le cas des entreprises récupérées, on les voit clairement lorsqu'on parle avec les travailleurs et les travailleuses. La première chose qui ressort comme acquis par rapport à la quotidiennité, c'est la capacité de décider sur la vie dans les usines ou dans les endroits du travail. Et bon, je dirais que, bon, ça c'est bien évidemment mon point de vue, mais en général, l'expérience de la présence des partis politiques de gauche n'a pas été toujours très réussie. Parce que cette dimension de reconstruction d'une subjectivité ouvrière d'un type nouveau, bon, ça échappe complètement aux structures et aux formes de pensée et d'action de la gauche. En fait, bon, il faut pas être méchant et il faut être juste. Il y a quand même, il y a des partis qui ont beaucoup appris, hein, c'est un processus collectif, mais il y a eu quand même des expériences assez traumatiques là-dessus.
C'était Emilio Taddei, toujours dans les oreilles loin du front. Donc Emilio Taddei, qui est chercheur au Claxo et qui introduisait en fait un peu le mouvement des entreprises récupérées. Et en parlant d'entreprises récupérées, les oreilles loin du front ont envoyé de vaillants reporters se risquer dans les hôtels de luxe de Buenos Aires. Et donc Pierre est allé voir à quoi ressemblait le Bowen, qui est un hôtel de luxe qui a été récupéré par ses salariés. À quoi ça ressemble un hôtel de luxe récupéré par ses salariés?
Alors le Bowen, ouais, c'est un hôtel qui a été abandonné en 2001-2002, à décembre 2001, janvier 2002, au moment de la crise financière. Il a été abandonné par ses patrons et courant 2003, une partie des salariés l'ont repris. Et donc, c'est un hôtel autogéré. Voilà. Alors, n'écoutant que notre courage et notre abnégation de journalistes libres, indépendants, pour FPP, on s'est rendu là-bas. Ça nous change des hangars moisis et humides où rencontrer le mouvement ouvrier En Marche. Donc là, c'est un ancien hôtel de luxe des années 70-80, un petit peu décrépit, hein, qui a un petit peu vieilli, mais quand on arrive tout de suite, l'ambiance est donnée. Il y a une librairie, une petite librairie qui fait une partie de l'aventure de l'hôtel, où on retrouve mis bien en évidence des bouquins sur Pancho Villa, sur Marx, sur le Venezuela, enfin, assez étonnant. Et puis juste à côté, de l'autre côté de l'hôtel, on trouve une boutique d'artisanat, sûrement des trucs équitables, d'artisanat indien. Et puis un bar, donc on y est allé avec Marion, Laura et Diego. On est allé s'installer au bar. Alors faut vous dire un truc quand même, je sais pas si c'est très important pour la compréhension de la situation géopolitique argentine, mais là-bas les bières, il y a que deux tailles, 670 centilitres ou 970 centilitres. Donc là on a pris 970 centilitres, on a pris plusieurs verres, et puis quelqu'un de l'hôtel Bowen, le représentant des salariés, puisqu'il y a un porte-parole qui est un petit peu habilité plus que d'autres à venir discuter quand il y a des demandes d'interview. L'un des porte-paroles, en tout cas de l'hôtel Bowen, est venu, s'est assis avec nous et on l'a enregistré.
Piquete y cacerola, la lucha es una sola. Piquete y cacerola, la lucha es una sola.
Donc on est au bar de l'hôtel Bowen, et alors on est avec
Gerardo Pensavalle, de prensa de l'hôtel Bowen.
Et donc, on est donc avec quelqu'un qui va nous parler, qui travaille à l'hôtel Bowen et qui va un petit peu nous parler de l'expérience de l'hôtel Bowen. Alors, peut-être que dans un premier temps, on peut essayer de comprendre ce qui s'est passé ici en décembre 2001, lorsqu'il y a la crise qui éclate partout en Argentine. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans cet hôtel?
L'hôtel cierra en el año 2001 con la famosa crisis de los bancos y financiera del país. Y recién dos años después del cierre, en el año 2003, un grupo de trabajadores del Bowen se encuentra con lo que era el movimiento de empresas recuperadas en aquel momento.
L'hôtel ferme en 2001 au moment de la crise financière importante en Argentine, et c'est à ce moment-là que les salariés de l'entreprise décident
deux ans après, les salariés de l'entreprise décident de la reprendre et de réouvrir l'hôtel.
Justamente por la crisis que hubo en esos dos años, hubo mucha experiencia en recuperar empresas quebradas.
Justement, avec la crise, il y a eu beaucoup. Après la crise, il y a eu beaucoup d'expériences d'entreprises récupérées, et les salariés de l'hôtel ont pu s'inspirer de ces expériences.
Por eso se transmitió esta experiencia de manera muy rápida a lo que eran cerca de 40 trabajadores que decidieron ocupar el edificio en marzo de 2003.
Et c'est dans ce mouvement d'occupation et avec ces expériences très récentes et très rapides que les salariés de l'hôtel décident d'occuper en 2003 et de récupérer l'hôtel, puisque c'est le terme consacré.
40 salariés de l'hôtel ont décidé de récupérer l'édifice.
À partir de ahí, hubo casi un año trabajando de manera muy precaria, alquilando apenas algunos salones para fiestas a gente que simpatizaba con lo que estaba sucediendo.
Et à partir de là, a commencé une année de travail assez difficile avec très peu de réservations d'hôtels qui étaient en fait des clients qui se solidarisaient avec le mouvement de récupération.
En ese tiempo no se juntaba ni siquiera para viajar, los trabajadores no tenían mucho que comer, solo de cuando en cuando con estas actividades podían ir juntando algo de dinero.
Bon, les travailleurs avaient très peu de moyens même pour survivre, et à partir de là, avec les moyens de, avec le peu de travail qu'il y avait dans l'hôtel, ils ont réussi à récupérer un peu d'argent.
Un hecho importante fue cuando vino una orquesta de la República de Venezuela que propuso adelantar plata para arreglar algunas habitaciones. Se alojaron más de 40 personas que estuvieron aproximadamente un mes y eso permitió dar un primer salto importante que fue el tener habitaciones para alquilarlas normalmente.
Un point important qui nous a aidé, c'est quand un orchestre de la République vénézuélienne est venu et nous a proposé de l'argent pour louer quelques chambres. Ça a fait environ 40 personnes qui sont restées un mois et ça a permis de faire la première étape importante dans la gestion de l'hôtel. Ça nous a permis de restaurer quelques chambres et de les louer normalement ensuite.
La mécanique fue siempre de cada dinero que se recaudaba por el trabajo, llevarse muy poca plata a cada trabajador y el resto reinvertirlo para reciclar y restaurar el hôtel.
Le principe, enfin jusqu'à maintenant, ça a été de récupérer le minimum d'argent pour chaque travailleur et de garder un maximum pour pouvoir le réinvestir dans l'hôtel.
Eso fue así durante mucho tiempo. Hasta que se logró regularizar un retiro, no un sueldo, nosotros llamamos retiro porque es retiro de asociados, de socios, al principio muy poco, de 500 pesos.
A partir de là, on a réussi à récupérer suffisamment d'argent, non pas pour sortir un salaire régulier pour chacun, mais une participation, enfin un petit partage de l'argent. Et à partir de là, les salariés se partagent non pas un salaire, mais une part du chiffre d'affaires, enfin une part de l'argent qui est mise à disposition.
Bueno, así se llega, haciendo rápido la historia, a que de esos 40 trabajadores se pasó en un año y medio a 80 y actualmente somos 160.
Ça a été très rapide puisque en un an, ils sont passés de 40 salariés à 80 travailleurs et aujourd'hui, ils en sont à 160 travailleurs dans l'hôtel. Donc, ça a une croissance très rapide.
Actualmente, hay un retiro que está por encima del salario mínimo que existe en la Argentina.
Aujourd'hui, il y a c'est pas un salaire, mais c'est une compensation qui équivaut à peu près au salaire moyen minimum, au salaire minimum argentin.
Et el promedio de lo que se gana son 1200 pesos, esos 1.200 pesos están por encima, lo que decíamos antes, del salario mínimo, que es 850.
Il gagne à peu près 1200 pesos et le salaire minimum est de 800 pesos à peu près en général. Donc c'est un petit peu plus que le salaire minimum.
Se estableció un retiro igual para todos, solo hay algunas pequeñas diferencias, algunos plus, por antigüedad o por básicamente la gente que estuvo antes reinvirtiendo dinero, cosa que no sucede con la última persona que entró.
Les salaires sont à peu près tous les mêmes. Il y a de petites différences, notamment pour l'ancienneté dans l'hôtel et pour les personnes qui étaient là avant et qui ont réinvesti de l'argent dans le projet, ce qui n'est plus le cas des nouveaux qui viennent d'arriver.
Y bueno, todo se decide en asamblea. Existe un consejo de 5 compañeros que toman decisiones generales y toda decisión trascendental y aún alguna que no esté dentro de lo pactado anteriormente se decide en una asamblea general.
Toutes les décisions sont prises en assemblée générale.
Les décisions sont prises en assemblée, mais il y a un conseil de 5 personnes qui prend la direction de l'hôtel. Et à chaque fois qu'il y a des réformes fondamentales, enfin une organisation fondamentale, il y a une assemblée générale avec tout le monde, y compris les nouveaux arrivés dans l'hôtel.
De todas maneras, siempre la asamblea es llamada en cualquier momento por cualquier situación que se crea importante. Más con la conflictividad que normalmente tiene la cooperativa.
De toute façon, l'Assemblée générale peut se convoquer à n'importe quel moment si on estime que la situation est en n'importe quel lieu, si la situation le mérite, et dans le cas d'une situation importante, et surtout en cas de conflit dans la coopérative, de situation conflictuelle dans la coopérative, pour essayer de le régler en Assemblée générale.
Eh bien, peut-être on pourrait décrire un peu l'hôtel. C'est un très haut bâtiment, je crois qu'il y a 19 étages. Combien il y a de chambres? Qu'est-ce qu'il y a dans cet hôtel? Parce que vous n'avez pas récupéré, c'est quelque chose de très gros qui a été récupéré.
Sí, son algunos pisos más, son 22 pisos. Tiene 220 habitaciones, casi 200 están restauradas para usar. Et solo muy poco falta poner en condiciones.
Alors en fait, c'est un peu plus de 18 étages, il y en a 22 étages et 220 chambres. Sur ces 220 chambres, il y en a 200 qui sont en restauration et qui sont fonctionnelles, 200 qui sont fonctionnelles.
Sur ces 200, il n'y en a que quelques-unes à qui il manque l'air conditionné, bon, qui méritent quelques aménagements encore.
Existen 7 salones que se usan para eventos, casamientos, cumpleaños. Un teatro de 350 butacas y una pequeña boîte.
Il y a 7 salons qui sont utilisés, loués pour des mariages, des anniversaires, des fêtes. Une salle de théâtre assez grande, de 300 places, donc pour des représentations théâtrales, et également une boîte, une discothèque qui fonctionne.
Hay un lobby bar, es esto que están ustedes, que todo esto se hizo nuevo, no existía, y fue otras las decisiones que se tomaron cuando estaba cerrado al público y se decidió tirar abajo todo un cerramiento que había, que estaba clausurado, y se hizo toda esta parte donde estamos ahora del bar nueva.
Donc on est ici dans le bar qui a été ouvert ensuite. Et qui a été en fait dans toute une partie de l'hôtel qui n'était pas ouverte. Et donc la décision a été d'occuper cette partie de l'hôtel qui est en fait un peu décalée par rapport à la réception de l'hôtel pour l'ouvrir au public. Un bar ouvert au public.
C'était en fait avant de réouvrir les chambres au public, ça a été le premier lieu d'occupation pour faire rentrer le public. Et c'est ensuite qu'ils ont pu ouvrir les chambres, etc. Mais c'était le premier lieu symbolique de l'occupation.
Alors, on a cru comprendre que les, L'hôtel Bowen, on voit d'ailleurs en arrivant une librairie avec beaucoup, une librairie très à gauche, très, avec beaucoup de livres militants. On trouve en devanture, en très bonne place, le manifeste du Parti communiste de Karl Marx et le livre de Paco Ignacio Taibo II sur Pancho Villa. On a cru comprendre que c'était un lieu qui accueillait beaucoup d'initiatives militantes et des mouvements sociaux qui se développent ici.
Sí, así se abrió juntando y dando espacio a las organizaciones sociales. Acá cuando esto estaba recién empezando se reunieron los trabajadores del Metropolitán que pelearon por las seis horas y consiguieron las seis horas de trabajo.
Oui, donc beaucoup d'initiatives, beaucoup de soutien aux mouvements sociaux et dernièrement les employés du métro se sont réunis ici pour revendiquer la journée de travail à 6 heures et ils ont obtenu la journée de travail à 6 heures.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, vous écoutez Les Oreilles Loin du Front jusqu'à 20h30. On est en Argentine ce soir, comme Astor Piazzolla nous le signale. Et on retourne dans l'hôtel Bowen, dans des draps en soie, avec Pierre.
Voilà, donc toujours à l'hôtel Bowen. Alors si l'ambiance du bar ne vous suffit pas, on vous propose une petite visite de l'hôtel et de ses chambres. Alors, 1807, c'est par là. Alors, nous voilà donc dans la suite 1807. Voilà, tac. Voilà, entrez, hein, je vais vous faire visiter. Moi, c'est la première fois que je vais à l'hôtel où il y a une suite. C'est-à-dire qu'il y a une chambre et puis d'abord, il y a un petit salon. Il y a un petit salon avec des fauteuils, avec une vue magnifique sur Buenos Aires. Voilà. Alors attends, faut voir, il y a la télé. Bon, ça, c'est pas super exceptionnel. Regarde.
Waouh, dis donc, c'est bien. C'est kitsch. C'est kitsch passé.
Ouais, la déco est un peu autogérée, quoi. Voilà. Alors c'est vrai que les fauteuils sont un petit peu usés. Tout est pas nickel. On sent que ça a eu des heures un peu meilleures cette chambre, cette suite. Même il faut pas déconner, c'est une suite, mais ça reste. C'est propre, c'est tenu, tout ça, mais on voit que ça a eu ses heures de gloire, on imagine, dans les années 70, et qu'il y a un petit côté vieillot, voilà. Bon allez, c'était la visite de notre suite.
Vamos compañeros, hay que poner un poco más de huevo, los que cayeron son nuestra memoria, desde la resistencia, la victoria, vamos compañeros.
Donc on en était à la question des mouvements sociaux.
Exacto. Este hotel se basó en eso y lo que decimos que el hotel está abierto a la comunidad, en primera instancia está abierto también a todos los que luchan por mejores condiciones de vida.
L'hôtel est évidemment ouvert à toute la communauté et à tous ceux qui se battent pour de meilleures conditions de vie.
Acá han pasado desde madres de Plaza de Mayo, han estado y vienen, siguen estando la gente que sufrió la tragedia de Cromañón, víctimas de familiares que han muerto en democracia, todos los partidos políticos, a excepción de la derecha, por supuesto, es el único límite que tenemos acá.
Les maires de la place de Mai sont venus ici, les familles des victimes de la boîte de nuit Cro-Magnon, des familles des victimes des morts sous la démocratie, et aussi tous les partis politiques peuvent venir ici utiliser les espaces, à part les partis politiques de droite, c'est la seule limite qu'on impose, tous les partis politiques peuvent venir sauf ceux de droite.
Et alors, on a évidemment tout ça a l'air très, très beau. J'imagine que ce n'est pas toujours très facile parce que apprendre la démocratie pour un salarié qui a eu l'habitude de rapports d'autorité, ce n'est peut-être pas toujours aussi facile. Et quel type de tension et quel type de problème vous êtes amené à résoudre ?
La organisation est mucho más libre. Al no haber patrones, cada uno tiene que ser responsable de su trabajo. Y también se genera esta contradicción que es buena, que todo el mundo opina sobre todo, pero es una contradicción, hay que tolerarlo.
Bon, les relations sont beaucoup plus libres entre les gens, tout est réglé entre tous les sujets, et la contradiction peut amener que tout le monde peut avoir l'opinion sur tout et peut exprimer son opinion sur tout. C'est peut-être éventuellement la seule contradiction, difficulté qu'il peut y avoir.
Alors il y a un autre problème qui évidemment se pose, c'est que vu que vous n'avez que votre force de travail comme capital, comment est-ce qu'on fait pour entretenir un endroit qui coûte aussi cher, toutes les rénovations, tout ça, comment est-ce qu'on fait pour faire vivre un endroit comme ça quand il n'y a pas de capital qui est...
Y la primera parte de cómo fue esto tuvo que ver con la solidaridad de otras empresas recuperadas también, y fundamentalmente lo que les contaba, un sacrificio extremo de reinvertir la mayor parte de lo que se ganaba. De hecho, actualmente es así. Ninguna empresa tradicional tiene un porcentaje tan alto en la reinversión de la facturación como tenemos nosotros.
Effectivement, il n'y a pas de capital et c'est un coût énorme pour les travailleurs ici de réinvestir dans l'hôtel. C'est un sacrifice énorme pour chacun des personnes qui travaillent ici, parce que c'est la seule façon d'entretenir l'hôtel, c'est réinvestir une partie des gains. Et donc ça nécessite un effort énorme pour chaque personne qui travaille ici.
Et solo eso que no hemos tenido prácticamente ayuda del Estado. Recién ahora hemos recibido un pequeño subsidio, pero en el hotel, por ejemplo, se invirtieron hasta el día de hoy más de 2 millones de pesos.
Évidemment, il n'y a pas eu beaucoup d'aide de l'État. À peine depuis peu, l'État a commencé à s'investir un peu. Ce que nous autres, les travailleurs, pouvons réinvestir dans l'hôtel, 2 millions de pesos.
Et aujourd'hui, justement, quelles sont vos relations avec l'État ? Je crois qu'il y a eu des tentatives pour limiter l'activité des entreprises récupérées. Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui pour l'hôtel Bauen ?
Y de palabra, todos los gobernantes en general dicen estar a favor de las empresas recuperadas, pero no hay ningún hecho que ayude a solucionar los problemas que actualmente tenemos.
Évidemment, l'État, tous les gouvernements ont soutenu verbalement l'expérience des entreprises récupérées, mais dans les faits, dans le soutien, jamais aucun gouvernement, jamais l'État ne s'est vraiment impliqué.
Actualmente, nosotros pedimos para nosotros y para el resto de las empresas recuperadas una ley nacional de expropiación, lo que haría que las propiedades terminen finalmente en manos de los trabajadores.
La revendication maintenant est d'impulser une loi, un projet de loi, pour que les entreprises récupérées soient définitivement récupérées par les travailleurs et pour les travailleurs.
Oui, pour que les entreprises récupérées deviennent définitivement la propriété des travailleurs.
Creemos que dentro del Estado existen tres tipos de posiciones de los gobernantes. Una, la que dice apoyarnos y no hace nada. La segunda, la que negociamos mejores búsquedas de soluciones. Y la tercera es la que quiere directamente matarnos.
Aujourd'hui, il y a trois positions distinctes parmi les différents gouvernements, enfin les différents niveaux de gouvernement. La première, c'est qu'ils approuvent la démarche, même s'ils ne font dans les faits pas grand-chose. La seconde, c'est qu'il négocie et aide, cherche des solutions avec l'entreprise récupérée. Et la troisième, c'est de les exterminer toutes les expériences d'entreprise récupérées.
En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde estamos nosotros, hay muchos legisladores que son directamente de derecha y que reivindican los derechos del grupo empresario que quebró y vació esta empresa y son enemigos declarados de esta cooperativa.
Alors ici dans la ville de Buenos Aires, il y a tout un courant politique qui soutient donc les patrons de victimes des récupérations et qui clairement veulent notre fin et veulent que les patrons puissent récupérer à titre privé les entreprises récupérées.
Et ce sont les pires ennemis de la coopérative.
Pero cuando dice vigilador, es que son gente que
Juste peut-être pour terminer, on regarde ça nous depuis la France et puis avec beaucoup d'intérêt les expériences qui peuvent se faire ici. Quelque part, c'est peut-être une des réponses à toutes les questions que se pose le ou les mouvements altermondialistes. Est-ce que à travers votre expérience, mais aussi plus largement les autres expériences d'entreprises récupérées, est-ce que il se dégage un modèle économique viable qui pourrait être servir d'exemple ailleurs?
No cabe duda que es una solución seria, es un camino muy serio. Acá se demostró que hay una forma alternativa de gestionar empresas y que encima no solo pueden dar ganancia y un bienestar económico a quienes trabajan en ella, sino que pueden tener un servicio, una utilidad social, que es lo que nos importa.
Oui, il n'y a aucun doute à ce que ce soit un modèle sérieux. C'est une façon absolument sérieuse de diriger une entreprise et de la faire vivre économiquement, avec un certain bien-être social pour les travailleurs. Et c'est viable économiquement.
Creemos que hay que extender todos estos procesos. Esperamos que se consoliden. O sea, va a depender mucho de estar junto a los otros trabajadores, de la unidad con el resto de los trabajadores, y que se entienda que lo que se está tratando de construir, por lo menos muchos somos conscientes de eso, es una sociedad distinta.
Il faut consolider ces expériences, mais ils espèrent que ça va pouvoir s'étendre et se consolider et rester un modèle qui se propage auprès d'autres travailleurs. Mais ça dépendra beaucoup de la capacité des travailleurs en général à s'unir et à se réunir pour tenter ce type d'expérience et les généraliser.
Voilà, on est toujours dans l'émission Les Oreilles Loin du Front sur Fréquence Paris Pluriel. On est toujours à Buenos Aires et plus précisément à l'hôtel Bowen. Alors, on dialogue avec l'un des porte-paroles de l'hôtel Bowen. On va discuter un petit peu avec lui de l'attitude des différents partis de gauche. Alors, attention, il y a peut-être quelques morceaux de langue de bois dans cette interview. C'est pour le moins prudent.
Piquete y cacerola, la lucha es una sola. Piquete y cacerola, la lucha es una sola.
Une des autres questions, c'est que c'est une forme de lutte manifeste, enfin, qui est apparemment très nouvelle ici, ces récupérations. Et j'imagine que ça a dû percuter les organisations de gauche, à la politique et syndicale, parce que c'est quelque chose de nouveau. Et comment est-ce qu'elles se sont appropriées ou pas cette manière de lutter? J'allais dire qu'il ne fait pas partie du patrimoine politique ou des manières de faire politique de la gauche.
La aceptan, reaccionan bien, en particular en el Bowen. Tenemos mucha relación, abrimos los espacios también a ellos y somos muy críticos y discutimos mucho. O sea, creemos que la reacción es buena, pero insistimos en que tienen que siempre integrarse a todo este proceso y bueno, hasta ahora la reacción ha sido buena.
les réactions sont plutôt bonnes, même très bonnes, d'autant plus que le BOEN a tout de suite ouvert ses espaces aux expériences politiques syndicales de la gauche. Donc les relations sont plutôt bonnes, ce qui n'empêche qu'il peut y avoir des réactions critiques de part et d'autre, mais dans l'ensemble, les réactions sont bonnes.
Hay que decir que indiscutiblemente los partidos de izquierda y los sectores más de izquierda son los que más han ayudado y defendido con la movilización y estando junto a nosotros al Hotel Bauer. Eso es así.
Il faut dire aussi que les partis de gauche et plus encore les plus à gauche ont beaucoup soutenu l'expérience et ont beaucoup participé à la mobilisation à chaque fois que c'était nécessaire. Ils étaient aux côtés de l'expérience de la coopérative du BOEN.
Sí, solo podría decir, no sé para dónde es esto, pero en confianza solo podría decir que teóricamente los partidos de izquierda conciben a este tipo de cooperativa como algo teóricamente como que no tiene mucho futuro, que normalmente tiende a burocratizarse o a ser una empresa capitalista, y nosotros eso lo tenemos muy consciente, sabemos que esos son los peligros, pero en realidad creemos que es el peligro en cualquier lado, o sea, creemos que hasta un Estado obrero puede llegar a burocratizarse o a volverse una sociedad capitalista. Por lo menos hasta ahora ha sido la experiencia, ¿no?
La seule chose qu'on pourrait dire et qu'on pourrait dire en toute confiance avec les partis de gauche, c'est qu'ils craignent et qu'ils pourraient nous reprocher à l'avenir de nous bureaucratiser ou alors de nous transformer en une réelle entreprise capitaliste. Et c'est vrai qu'on entend souvent cette critique, mais aujourd'hui ce qu'on peut leur répondre, c'est que nous on est fiers de faire en sorte que ça fonctionne et que de toute façon, même dans un état ouvrier, le risque de bureaucratisation est important et énorme. Donc à un moment, il faut prendre le risque pour essayer d'aller de l'avant.
Que lo único que nos queda es seguir desafiando al sistema y seguir construyendo todo lo que podamos. Estamos en este sistema, pero lo estamos todos, los partidos de izquierda, los que opinamos un tipo de sistema mejor y los que estamos todos dentro de este sistema. Y lo único que podemos hacer es seguir desafiándolo y mostrar que sí se puede construir en los hechos otro sistema económico y no parar de luchar, digamos, no parar de estar junto a otros trabajadores y saber que siempre hay algo más, por lo que hay que estar invirtiendo o arriesgando lo que tenemos, que es esta empresa.
Ce qu'il faut pour continuer, c'est continuer à nous faire confiance pour qu'on continue à avancer sans jamais lâcher la proximité, la solidarité avec toutes les luttes et les travailleurs, et continuer d'avancer pas à pas et de soutenir toutes les manifestations et continuer à tirer aussi toutes les expériences. Et il n'y a pas un système unique d'expérience. Il faut prendre tout ce qu'il y a de bon dans les critiques et dans les apports des partis politiques et des mouvements sociaux pour continuer sans arrêt à se reposer des questions et à avancer ensemble.
De todas maneras, acá habemos un grupo que siempre nos encargamos de estar junto a otras luchas, y la verdad es que podemos hacer mucho. Nuestra preocupación central es que no haya una lucha que se pierda. A veces es una fábrica ocupada, a veces es otro sector de trabajadores, pero nosotros no nos preocupamos si con eso hacemos más o menos propaganda en contra del sistema o del gobierno.
Ici, il y a un groupe de travail spécifique qui travaille spécialement sur les relations avec les autres formes de lutte, toutes les autres formes de lutte, donc, et qui garde le lien entre la coopérative du BOEN et les autres luttes, donc que ce soit des entreprises récupérées, des mouvements sociaux, quels qu'ils soient. Et pour eux, c'est essentiel de garder ce lien en permanence et ces allers-retours, et surtout de les aider à combattre toute la propagande du gouvernement contre le mouvement des entreprises récupérées.
Nuestra obsesión, porque hemos visto perder algunas fábricas, hemos visto estar al límite de que haya muertos en un conflicto, es no perder un conflicto, evitar que haya cualquier pérdida de vida, por supuesto, o represión. Y después, cuando tenemos tiempo, probemos propagandizar más sobre cuáles son las mejores salidas. Pero para nosotros la mejor salida es la que destraba los conflictos a favor de los trabajadores, la que hace que nunca se pierda nada.
Leur obsession, c'est vraiment une obsession pour eux, c'est qu'aucune lutte ne se perde et qu'ils soient tout le temps sur la brèche en fait, pour soutenir les autres mouvements, et parce qu'ils pensent que la meilleure issue pour tout le monde, c'est que les travailleurs ne perdent jamais une lutte. Et donc ils essayent au maximum, eux, de généraliser leur expérience et de la faire connaître au maximum pour qu'elle puisse servir à toutes les autres formes de lutte.
Donc Gerardo Pensavalle.
Pensavache.
Ah oui, Pensavache. Donc, ben, merci beaucoup pour ces quelques explications. Juste, vous occupiez quel poste et vous occupez quel poste aujourd'hui, avant et après la réquisition de cet hôtel?
Je suis de los 120 nuevos que entraron. Ça fait un poco más de 2 años que estoy. Soy uno de los responsables de prensa y política del hotel. Y bueno, nos ocupamos de difundir interna y externamente y de entablar lazos solidarios y meternos en todos los problemas que normalmente hay.
Oui, alors moi je suis là depuis 2 ans, je fais partie des 120 nouveaux travailleurs venus, je suis responsable des relations presse, du bureau de presse, et on s'occupe de diffuser le maximum l'expérience du Bauen.
Entonces, suerte, ¿no? Que sigue la lucha.
Vamos, compañeros, hay que poner un poco más de huevo. Los que cayeron son nuestra memoria, desde la resistencia a la victoria.
Allez, voilà, on quitte l'hôtel Bauen et puis on retourne voir Emilio Taddei, notre ami sociologue, pour essayer d'avoir de sa part une autre vision, ou sa vision, qui est peut-être pas très loin de ce que nous disait Gerardo Pensavache. Voilà, qu'est-ce qu'il en pense des entreprises récupérées? Que faire? Bilan et perspective.
Et aujourd'hui, ces entreprises récupérées, on a rencontré hier quelqu'un de l'hôtel Bauen à Buenos Aires. Mais il y en a d'autres. Où elles en sont aujourd'hui, ces entreprises? Est-ce qu'il y a eu des ratés? Est-ce qu'il y en a qui marchent bien? Je pense que l'hôtel Bauen est une expérience un peu particulière parce qu'elle a les moyens, en accueillant dans ses espaces les luttes sociales, les représentants des mouvements sociaux, de créer le lien. Les autres entreprises qui sont plus directement des entreprises, non pas de services, mais de production, doivent rencontrer des difficultés autres, je pense. Et où elles en sont aujourd'hui dans leur ensemble?
Bon. D'abord, il faut dire que ce n'est pas un mouvement homogène. Il y a des débats politiques qui ont traversé les mouvements des entreprises récupérées, et donc il y a des expériences différentes, et même des débats politiques et idéologiques qui font que, bon, il y a des différences, il y a des expériences différentes. Mais il y a eu des recherches très intéressantes qui ont été menées, et qui ont montré, par exemple, que les entreprises ou les usines où il y avait des expériences syndicales, des militants syndicales préexistantes, la situation a mieux évolué dans la mesure où ces militants ont eu une politique d'ouverture des usines vers la société. Ils ont cherché à avoir le soutien des différents mouvements. Il y a un cas qui est, moi je trouve, un des plus intéressants, qui est le cas de Sanon. Sanon est une usine de production des carrelages. C'est la plus importante de l'Amérique latine. Et donc, qui a été reprise en 2001 par les travailleurs. Bon, Sanon est située dans une province qui s'appelle Neuquén. C'est une province pétrolière aussi. Et donc, il y avait une tradition syndicale des gauches antibureaucratiques très importante. Même, il y a eu des courants trotskistes hein, qui avaient percé sur les plans syndicaux dans les années 90. Bon, après, beaucoup de ces militants ont quitté les partis, etc. Mais ils ont resté quand même des militants syndicaux. Et Sanon, par exemple, a été l'objet des arrêts de la justice pour que l'usine soit récupérée par la police et reprise par les patrons. Et ça a été évité justement à cause des liens qui ont établi les travailleurs avec d'autres mouvements sociaux. Et notamment, et ça c'est très intéressant, dans le cas de Neuquén, où il y a une population d'origine autochtone très importante, il y a le peuple Mapuche. Hein. Et donc les ouvriers des Anons ont tissé des accords politiques avec les communautés Mapuches. Pourquoi ? Parce que justement... La matière première du carrelage, c'était en fait une terre qui était extraite quand l'entreprise fonctionnait de façon capitaliste, des territoires mapuches. Et donc il y avait un processus d'exaction de la terre des territoires mapuches. Et donc ils ont réussi à établir un dialogue pour penser en fait une politique durable des productions des carrelages. Et donc, bon, ça, je donne cet exemple parce que c'est un exemple bien réussi. Donc, je dirais qu'en général, dans les cas. Des usines ou des entreprises, il y a eu une politique d'ouverture et de chercher à avoir le soutien de la communauté, des communautés locales ou des mouvements sociaux. Ben, c'est des entreprises qui continuent encore l'expérience et qui ont évolué. Mais là aussi, il y a un autre phénomène qui nous renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur le processus des cooptations. Les gouvernements s'est donné une politique vis-à-vis des mouvements des entreprises récupérées. C'est-à-dire qu'il y a eu des lignes de crédit offertes par l'État justement pour venir à l'aide de la production. Et donc ça a foutu un bordel important parce que bon, le débat s'est installé au sein des collectifs des travailleurs, si on acceptait ou on n'acceptait pas les crédits de l'État, parce que les crédits de l'État venaient de la main des conditionnements politiques. Et donc, il y a eu des ruptures au sein du mouvement. Là, à ce moment, il y a trois composantes du mouvement des entreprises récupérées. Les composantes de gauche, dont l'usine les plus importantes est Sanon. C'est un groupement qui s'appelle le collectif national des entreprises autogérées. Et puis il y a un mouvement qui était le mouvement national des entreprises récupérées et qui s'est divisé en deux. Donc il y a une branche qui est très proche du gouvernement et puis il y a une branche dont fait partie Bauen, l'hôtel Bauen, qui est plus critique. Et donc, ils essayent de rester un peu à l'écart de ces tentatives de cooptation et de construire une politique autonome par rapport à l'État. Mais bon, c'est pas évident. Hein. C'est tous les problèmes de se poser la question de la gestion d'une politique anticapitaliste, des gestions non capitalistes dans les cadres d'une société capitaliste. Et donc voilà, on est un peu là, mais je trouve que c'est quand même une des composantes les plus intéressantes qui a un peu accouché lors de la crise en Argentine.
Voilà, toujours dans les oreilles loin du front, c'était Emilio Taddei du Claxo qui donc nous laisse un peu sur un suspense entre les réformistes qui se rapprochent du gouvernement et ceux qui essayent de monter une vraie initiative autonome. Peut-être que la semaine prochaine, Pierre, il y aura...
Mais tout à fait, la semaine prochaine, vous entendrez ça.
Il y a bien évidemment la composante identitaire, parce que c'est des peuples qui ont été soumis par les pouvoirs... post-colonial en Amérique latine, mais il y a un rapprochement ou une identification entre la question ethnique et la question des classes. Et donc, ça permet, sur les plans intellectuels en Amérique latine, de rouvrir un débat au sein de la gauche, au sein de la pensée critique, sur le débat sur la lutte des classes. qu'est-ce que c'est la lutte des classes aujourd'hui et quelles sont les particularités de la lutte des classes en Amérique latine aujourd'hui.
Voilà, alors ça c'était donc un extrait de la suite de l'interview d'Emilio Taddei qu'on entendra en intégralité la semaine prochaine avec d'autres choses, toujours à Buenos Aires, toujours sur la situation politique en Argentine et plus largement en Amérique latine. Voilà.
Vamos compañeros, hay que poner un poco más de huevo. Los que cayeron son nuestra memoria, desde la resistencia a la victoria, vamos compañeros.
Voilà, c'était Les Oreilles Loin du Front, une émission récupérée et autogérée avec Debout sur la Barricade ce soir, un micro à la main, une quilmesse dans l'autre, notre fière équipe de reporters en Argentine. J'ai nommé Laura, Diego et Marion. Debout sur la table de mixage, Lou, Juliette. Debout sur le comptoir, ils chantent La Jeune Garde en espagnol. C'est eux, Lou, Guillaume, Lou, Cédric et Lou, Alex. Et puis, debout sur ces dossiers administratifs, on retrouvait aussi Lou, Juliette, du Nord. Ce soir, dans le rôle du commissaire politique, debout quand il y arrive, on retrouvait Loulou, c'est lui. Voilà, il est 20h30, on est un petit peu en retard, on vous abandonne dans les bras d'Écho du Capricorne, puisque v'là Claudia, et que ce soir j'ai de la fièvre et que toi tu meurs de froid.